Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique boursière. Nous sommes le lundi 13 novembre 2023. La semaine qui vient de se terminer aura été un peu surprenante puisque les mots et les expressions de Jérôme Powell avaient largement de quoi mettre le marché à terre vendredi. Vendredi soir, les intervenants en ont décidé autrement. On reste convaincu que le cycle de hausse des taux est terminé et on parie sur le fait que les prochaines décisions de la Fed seront plus dovish que hawkish, et ce, malgré les déclarations de la même Fed qui semble beaucoup moins convaincue que le marché lui-même. Les indices sont au plus haut depuis mi-septembre, la tech ne s'arrête plus de monter et la semaine qui nous attend promet d'être très compliquée, pour ne pas dire risquée. On ne va pas revenir sur le fait que les banques centrales se trouvent dans une situation qui n'est pas simple. Pour débloquer la situation, il faudrait que l'inflation continue de se calmer en direction des 2% promis par la Fed et qu'en même temps, l'économie ne ralentisse pas trop, histoire de ne pas nous précipiter dans une récession trop violente. Depuis le début du processus de hausse des taux, le gros problème auquel la Fed a dû faire face, c'est l'emploi qui refusait de ralentir aujourd'hui. En tous les cas, depuis 10 jours, il semblerait que ça commence à se calmer puisque les NFP sont plus faibles. Enfin, c'est pas encore tout à fait le cas du côté des jobless claims qui, eux, continuent de montrer que les Américains n'ont pas tant besoin des services du chômage que cela. Toujours est-il que cet équilibre instable est une des pierres d'achoppement et qui fait que parfois nous avons tendance à douter. Chose que l'on n'a pas fait vendredi dernier puisque les doutes de Powell se sont transformés en autre conviction que tout va bien se passer. Sauf que dans les jours à venir, nous allons devoir faire face à plusieurs événements qui pourraient potentiellement déstabiliser nos belles certitudes. Tout d'abord, il y a les doutes de Moody's. L'organisme de rating américain a donc choisi ce week-end pour abaisser ses perspectives pour la dette américaine. Ils sont passés de stable à négatif. Les politiciens et les responsables américains du Trésor n'ont que très moyennement apprécié la chose, contrecarrant l'annonce en disant que tout va bien de leur côté et que l'abaissement des perspectives ne font aucun sens. Alors oui, tout va bien, parce que déjà, c'est pas eux qui payent les intérêts de la dette, mais si on regarde un peu plus loin avec une touche d'objectivité, on se rendra rapidement compte que le montant des intérêts de la dette a littéralement explosé ces dernières années. Et sauf erreur, à ce jour, les USA paient plus pour les intérêts de la dette que pour le budget de l'armée US. Et on sait que pour faire mieux que le budget de l'armée US, il faut se lever de bonne heure. C'est donc la bonne nouvelle avec laquelle nous allons commencer la semaine. Il faut relativiser parce que le track record de Moody's n'est pas non plus vierge de toute erreur d'appréciation, mais tout de même, on commence à se rendre compte que la dette US explose et qu'à ce rythme-là, les USA auront une dette de 50 000 milliards d'ici 2030. Et 50 000 milliards, ça fait quand même un paquet de maisons dans les quartiers UP de Miami, sans compter que converti en iPhone, c'est encore pire. L'autre sujet récurrent de la semaine à venir, l'inflation. Mardi, nous aurons donc les publications des chiffres du CPI pour le mois d'octobre. Et même si, a priori, les dernières publications de ce chiffre ont été parfaites et suffisamment rassurantes pour que la Fed ne monte pas les taux deux fois de suite, on n'est pas à l'abri d'un dérapage. La bonne nouvelle, c'est que le pétrole s'est fait défoncer depuis 3-4 semaines et que ça devrait soulager le bilan du mois. Même si on s'arrange à chaque fois pour arrondir les angles quand c'est dans l'autre sens, cette fois, on devrait pouvoir sabrer le champagne pour fêter ça. Néanmoins, le chiffre qui sortira mardi et qui sera suivi par le PPI mercredi a le pouvoir de faire tourner la veste à ceux qui pensent que la Fed a gagné le combat et que les taux ne monteront plus jamais. Cependant, si je devais me risquer à une prévision quelconque, je dois dire que je serais étonné que le CPI déclenche un sell-off dans les conditions de résistance dans lesquelles nous nous trouvons. Plus rien ne semble nous faire peur et notre résilience est tout simplement impressionnante, surtout depuis que l'on sait mieux que la Fed ce qu'il faut faire. Ensuite, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à la fin du mois de septembre et au début du mois d'octobre, les géniaux politiciens américains avaient botté en touche au sujet du budget du gouvernement fédéral, vu qu'ils étaient tout à fait incapables de se mettre d'accord sur quoi que ce soit. On avait donc repoussé la date butoir de 45 jours. Si cette date n'avait pas été repoussée, le gouvernement fédéral aurait été fermé et les salaires n'auraient plus été payés. La date butoir des 45 jours de moratoire tombe juste à la fin de la semaine et je ne suis pas convaincu qu'ils aient trouvé la moindre solution à l'heure actuelle. La bonne nouvelle, c'est que statistiquement, un lockdown du gouvernement fédéral n'a jamais eu vraiment la moindre influence sur ce qui se passe à Wall Street. On veut nous faire croire que c'est grave, mais en fait, Wall Street s'en tamponne le coquillard comme de sa première cravate et de son premier bonus. Toujours est-il que l'on pourrait largement se passer du fait que l'on va devoir avoir droit à une nouvelle vague d'angoisse et de doute, sans compter que Biden va rencontrer Xi Jinping cette semaine et qu'il risque d'avoir d'autres chats à fouetter que le budget de son gouvernement. Bon, c'est pas que Biden sert à quelque chose à l'heure actuelle, mais on ne sait jamais, ça aurait pu aider. Et puis, ça n'est pas tout. Une fois que l'on aura survécu au CPI, au budget et au downgrade de Moody's, on va se souvenir qu'il faut encore s'occuper des chiffres trimestriels des retailers. Oui, car souvenez-vous, le trimestre dernier, lorsque Macy's ou Foot Locker avaient publié leurs chiffres, on avait constaté que tout n'était pas rose du côté du consommateur. L'endettement des cartes de crédit se faisait sentir et les habitudes de consommation n'étaient plus vraiment les mêmes qu'auparavant. Et autant vous dire que si l'on commence à être plutôt convaincu que l'inflation n'est plus vraiment un problème, on va commencer à surveiller attentivement ce que fait le consommateur. Parce que si la Fed et Mme Yellen pensent que la récession ne passera pas par eux, les premiers signes de récession, dans le cas où ils se gourent, passeront forcément par le consommateur. Et la publication des chiffres de sociétés comme Walmart, Target, Macy's, Home Depot et bien d'autres pourrait avoir le même effet canari que l'on emmenait au fond de la mine pour vérifier qu'il y avait assez d'oxygène. Nous avons donc terminé la semaine avec une confiance inébranlable chevillée au corps, et rien ne semblait pouvoir nous empêcher de monter. Il reste donc à savoir si nous serons capables de passer au-dessus des obstacles qui vont jalonner cette semaine. L'indice Green Fear est au milieu de nulle part, pas assez peur et pas assez confiance. La VIX est au fond du trou, ce qui laisserait penser que plus personne n'a peur et que l'on ne ressent absolument pas le besoin de se protéger. Les commentaires de Moody's ne font baisser les futurs que de 0,3%, autant dire rien du tout. En résumé, nous avons l'air indestructible et les Bulls auraient repris le pouvoir, que je ne serais même pas surpris. Reste donc à gérer la semaine jour après jour afin de voir si ce sentiment de toute puissance reste chevillé à nos portefeuilles qui sont de plus en plus convaincus que nous savons tous tout mieux que la Fed, voire même mieux que toutes les banques centrales réunies. Nous sommes lundi matin et il est très tôt au moment où je vous écris ces lignes. L'Asie vient à peine d'ouvrir et pour résumer les choses très simplement, il ne se passe rien. La plupart des indices sont immobiles ou presque, comme si l'on attendait un signal pour démarrer la semaine, pour de vrai. Et la semaine, elle pourrait démarrer demain seulement. Le pétrole est à 76$ et des poussières et plus personne ne parle du fait que la guerre qui fait rage dans la bande de Gaza pourrait s'embraser à tout le Moyen-Orient et que cela pourrait avoir de terribles conséquences pour le prix du baril. Non, actuellement, la seule chose dont on parle en ce qui concerne le baril, c'est que l'économie chinoise est pourrie et se traîne lamentablement. Du coup, ils ne vont plus importer de pétrole, ressortir leurs charrettes et les faire tirer par des chevaux comme au bon vieux temps. En gros, le pétrole ne risque plus de monter à cause de la guerre, mais il risque de baisser à cause de la Chine, qui, elle, n'est pas en guerre. Enfin, pas encore. Pendant ce temps, l'or est à 1940 et le bitcoin est au-dessus des 37 000. En ce qui concerne les nouvelles du jour, je crois que j'ai plus ou moins tout dit, mais il faudra tout de même noter que Goldman Sachs vient de nous publier un nouveau rapport économique au sujet de la récession. Selon les stars de la finance de l'extrême sud de Manhattan, la probabilité de récession est de 15% pour l'année à venir et ils s'attendent à ce que le paysage macroéconomique revienne aux conditions d'avant 2008. Avant 2008, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, parce qu'après 2008, on s'est quand même pris la crise des subprimes en pleine gueule. Donc en gros, la note adressée aux clients s'intitule « The hard part is over ». Selon eux, les économies du monde ont dépassé les attentes les plus optimistes en 2023. Je ne m'étais pas rendu compte que tout allait aussi bien que ça. Donc je suis absolument désolé. Du côté des chiffres du jour, je vous préviens tout de suite, ça ne sera pas la journée la plus passionnante de la semaine. Il y aura les inventaires pétroliers, mais on s'en fout parce que de toute façon, c'est toute la faute de la Chine. Et il y aura aussi les prévisions économiques européennes qui sont à peu près aussi utiles que les prévisions des chiffres de l'euro-million de samedi prochain. Et puis du côté des chiffres du trimestre, il y aura deux ou trois trucs comme Fisker ou Tower Semiconductor. Mais c'est surtout demain que l'on va commencer à pouvoir parler consommation. Alors d'ici là, passez un très bon lundi, que votre semaine commence bien et on se revoit demain comme d'habitude. À demain et excellente journée à tous.